France Info.
Bonjour Jean-Pascal Zadi.
Bonjour.
Bonjour Raphaël Quenard.
Bonjour.
Vous faites partie tous les deux des acteurs français qui comptent le plus dans le paysage du 7e art, avec quelques points communs flagrants, comme le franc-parler ou le parler vrai, l'humour et cette envie d'en découdre avec la vie, autant que de redistribuer les cartes. Une chose est certaine, c'est que vous avez su prendre votre destin en main et accomplir vos envies et quelques-uns de vos rêves. L'un, Jean-Pascal, a conquis le public d'abord par le biais de la musique, avec le groupe La Cellule, avec la réalisation de ce documentaire des Halls au Bac sur le rap français indépendant. Et puis, il y a eu Cramé, African Gangster, Sans pudeur ni morale, et puis Tout simplement Noir, ce qui vous a offert, Jean-Pascal, le César du meilleur espoir masculin. L'autre, Raphaël, s'est imposé d'abord dans des séries. On pense à HP avec le rôle d'un interne bipolaire. D'ailleurs, on a très peur. Dans Family Business aussi sur Netflix, avant de décrocher le César de la meilleure révélation masculine pour sa prestation qui a bluffé le public, avec le fameux chien de la casse. Et dans les deux cas, on se rend compte que malgré le César obtenu des deux côtés, rien n'a été simple. Et ce n'est donc pas un hasard que vous retrouviez à l'affiche du film Le Rêve américain, réalisé par Anthony Marciano, l'histoire vraie de Bouna et Jérémy, deux passionnés de basket qui tentaient de joindre les deux bouts dans leur quartier dans les années 90. Ils rêvaient grand, ils rêvaient de pouvoir accompagner et recruter en fait des joueurs en NBA. Vous jouez donc le rôle de ces deux garçons et j'ai l'impression que ça raconte aussi vos vies. Comment vous avez appris cette histoire et à quel moment vous vous êtes dit mais comment c'est possible qu'on n'en ait pas parlé avant autant ?
On en a entendu parler déjà par Anthony Marciano qui s'intéressait parce qu'il était un peu fan de basket, même si le film n'utilise le basket qu'en guise d'arène, et c'est vraiment une toile de fond. Mais regardez, il voyait toujours ces deux personnages derrière les joueurs majeurs qui sont devenus des stars, dont Victor Wembanyama, dont Rudy Gobert, Evan Fournier, etc. Et à force de les voir systématiquement à l'arrière-plan, il s'est dit, mais c'est qui ces deux gars ? Et il s'est rendu compte que c'était des Français qui avaient eu ce parcours incroyable, partant de rien et arrivant au sommet de leur activité, puis c'est les meilleurs agents du monde. Et du coup, il a commencé à s'intéresser à eux, il a découvert le parcours et il a vu que c'était des gens qui étaient prêts à tout et qui abandonnaient rien et qui avaient réussi à franchir la ligne d'arrivée, entre guillemets, parce qu'ils sont qu'au début de maintenant d'une expansion infinie. Mais ils ont tenu pendant 20 ans. Le film, il s'étale sur 28 ans. Mais ils ont connu 20 ans de rudes épreuves à dormir dans leur voiture, à faire des micmacs pour essayer de séduire les joueurs, pour qu'ils leur fassent confiance, en allant cacher leur voiture à 3 km, en louant des fausses voitures, en allant les voir, en se prenant des portes, en se faisant trahir, en se faisant carotte par d'autres agents qui leur piquent les joueurs, etc. Ils ont toujours gardé leur ligne. Ils ont jamais cédé à la facilité d'une séparation et c'est extraordinaire. Et nous, on se reconnaît dedans. Enfin, moi, personnellement, et JP aussi, par le parcours exceptionnel de JP. Moi, c'est pour ça que j'admire Jean-Pascal. C'est le parcours, il est incroyable. Et nous, comme on est prêts à tout aussi, dans notre métier, moi, je me rappelle une fois, je voulais faire un film. Ils me prenaient pas pour faire le film, le casting. Et du coup, j'ai accepté de faire l'ingé son. Et j'ai accepté de faire la perche. Mais en me disant, peut-être si à un moment, il y a une petite scénette, je vais essayer de gratter ma pièce, entre guillemets. À la fin de la journée, JP, ils me disent, bah, il reste une scène, et c'était une scène de torture, et il fallait quelqu'un pour jouer le mec baïonné. Je lève la main pour me porter volontaire. Ils me disent, bah, ok. Et là, je vois, moi, je m'attendais à pouvoir jouer un petit peu. Non, ils m'attachent à une chaise, ils me mettent un baillon avec un torchon dans la bouche comme ça, donc je peux même plus parler. Moi, je voulais jouer. J'ai son toute la journée, et là, j'avais envie de pouvoir quand même... tu vois, expérimenter ce qui était l'acting. Et là, je commence à être sur une chaise et il me demande de hurler pour me libérer, pour essayer de me faire entendre de l'autre côté de la maison. Et il me jette du sang comme ça dans le visage et tout. Au final, la scène, elle est catastrophique. Elle est bien, c'était une bonne expérience. Mais en vrai, on était prêts à accepter tous les trucs pour essayer de le faire.
Jean-Pascal, vous rêviez de cinéma très tôt, d'être réalisateur surtout.
Oui, d'être réalisateur.
Et on vous disait que c'était impossible.
Oui, bah déjà, mes parents, c'était le premier frein. Je me rappelle que mon père m'a dit, franchement, même les Blancs qui veulent faire du cinéma, ils n'y arrivent pas. Alors toi, tu crois vraiment que tu vas y arriver? Mais c'est surtout que quand ton père, il te dit ça, ça t'en fout un coup quand même, tu vois. Ouais. Mais ça ne m'a pas arrêté parce que moi, ce dont je rêvais, c'était du travail. C'était travailler, c'était être réalisateur, c'était choisir ma vie, c'était ne pas subir ma vie. Donc en fait, les raisons pour lesquelles Raphaël et moi, on a été jusqu'au bout, c'est pas pour les mauvaises raisons, on va dire. Nous, on était vraiment passionnés du métier et c'est le métier qui nous intéresse jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je crois que Jérémy et Bouna aussi, c'est la même chose. Leur rêve, c'était travailler, être des agents. Et quand t'as une passion, je crois vraiment qu'il n'y a pas grand monde qui peut t'arrêter, quoi. Et donc, voilà, je pense que ce qui nous a sauvés, Raphaël et moi, et ce qui a sauvé Jérémy et Bouna, c'est le fait d'être passionné. Et quand t'as la chance de trouver ce qui te passionne, je crois que toutes ces galères-là que Raphaël a vécues, que j'ai vécues, mais finalement, c'est même pas si dur que ça, en fait.
Super.
Finalement, c'est que des étapes pour aller vers l'objectif que tu t'es fixé.
Et aussi, un truc, c'est que moi, je pense, et le chemin de Bouna et Jérémy, il retranscrit ça avec éclat, c'est que on est tous nuls. On se pense tous inférieurs ou pas capables d'eux ou pas légitimes de quelque chose. Et on a peur. Mais au final, juste accepter de se lancer sans se laisser atteindre par le ridicule, c'est vraiment le premier pas, mais c'est plus important. La maladresse, quand bien même on est maladroit, si notre démarche, elle est sincère, la sincérité, elle va compenser la maladresse et in fine l'étouffer et la battre. Donc il suffit, quand bien même on serait d'une maladresse confondante, d'essayer de le faire.
Ce qui ressort à travers ce film, pour tous les deux, hein, c'est, et d'ailleurs ça dépasse le film, c'est votre amitié. C'est une histoire d'amitié, cette réussite-là, elle est collective, c'est familial et une histoire d'amitié. Et en fait, on découvre votre amitié qui naît dans le film. Ouais. Et qu'on imagine d'ailleurs en dehors du film. Est-ce que c'est pas ça, le fil rouge de cette histoire ?
Le fil rouge de cette histoire, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment, ça montre que souvent aux États-Unis, quand ils veulent promouvoir le rêve ou la réussite, ils disent « do it yourself, fais-le tout seul, tu vas y arriver et tout ». Et là, ce film-là, c'est tout le contraire. En fait, le film, il prouve que la réussite, en fait, c'est toujours le fruit d'un collectif. Jérémy sans Bouna, Bouna sans Jérémy, en fait, ils n'y seraient jamais arrivés. Il y a aussi l'aide de leur femme, il y a aussi l'aide de leur mère. Et ce qui est vraiment super génial dans le film, c'est que ça montre que tout ça, ça va ensemble et que t'es jamais tout seul quand tu réussis. Et je trouve que c'est un très, très, très beau message. En fait, l'amitié dans le film, elle est mise, mais au top. Et d'ailleurs, c'est un film d'amitié et j'en vois pas beaucoup et je trouve ça trop bien. Une amitié masculine où ils se touchent un peu, ils se touchent.
Il y a la sororité, on se demande si justement ça existe au masculin.
Ah oui.
Justement, non, mais là, c'est une évidence.
Non, mais là, ce qui est super, évidence. C'est qu'ils n'hésitent pas à être tactiles. L'autre, il le masse quand il est stressé.
J'ai la moustache.
Ça te dérange pas. Et en fait, il est tactile quand l'autre, il est stressé. Il lui masse les mains.
Les points d'acupression.
Les points d'acupression. En fait, ce qui est vraiment super, c'est que ça, et que ça dit aussi que si tu veux y arriver, si tu veux réussir, évidemment que le moteur, il est toujours personnel. La passion, faut que tu la trouves à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va développer cette énergie-là. Mais ça montre qu'il faut bien choisir ton conjoint. Faut bien choisir les amis que t'as autour de toi. Que, en fait, tout seul, tu y arriveras pas, en fait. Il faut quand même que tu te mettes dans un collectif, dans un groupe qui va faire en sorte de t'accompagner là-dedans. Et donc, moi, ça a été pareil pour moi aussi.
Mais
dans
ça,
la
tu
vie.
Choisis pas.
Oui, mais
c'est comme l'amour, l'amitié, tu choisis pas de.
Peu les amis, quand même.
Oui, mais je veux dire, elle a une révélation amicale. Moi, quand on s'est rencontré avec Jean-Pascal, c'était sur le tournage de Coupé, et Jean-Pascal, en modeste exemplaire, il arrivait, il venait d'avoir le César pour tout simplement noir, et il venait sur le tournage en brandissant son César tous les matins.
Ouais.
Et moi, quand j'ai vu JP arriver, j'ai tellement aimé. Moi, je suis un fan de Zlatan Ibrahimovic. J'ai tellement aimé le panache et tout. Tu m'as tellement foudroyé.
Oui, je m'en rappelle.
Que quand je suis allé lui parler, je te jure, dès le premier échange, je pense qu'avant même la première phrase, je savais que nos âmes, elles avaient dansé ensemble depuis l'ère glaciaire.
C'est clair. Et puis, il y a aussi le fait que toi et moi, H24, on veut quand même beaucoup rigoler.
Bien sûr.
Et donc, la bêtise, ça nous a bien rapprochés. Et c'est un élément, c'est une bulle, en fait, dans laquelle on se met à chaque fois. Et on rigole.
On se vaute
vraiment dans des blagues d'une bassesse, vraiment.
Il a joué avec ça, d'ailleurs, le réalisateur. Il a fait des gros plans. On voit beaucoup vos regards.
Ouais.
Je me posais la question de savoir, d'ailleurs, si vos regards avaient changé entre les enfants que vous étiez et aujourd'hui. On a l'impression que vous avez gardé vos yeux d'enfant. Mais cet amour du jeu, même cette curiosité, finalement.
Je crois aussi que le métier qu'on a choisi aussi, c'est quand même un peu ça. Parce qu'on dit jouer la comédie. Donc, je crois jouer la comédie, jouer au foot, les deux métiers qu'on voulait faire.
Ouais.
Et j'ai l'impression que
on
c'est
le métier... On n'avait pas travaillé ensemble. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait acteur aussi parce que tu voulais fuir le travail ?
Non.
Est-ce que c'est pas par fainéantise à la base que
non,
tu t'es
pas. Moi,
dirigé
j'ai...
vers cette
non,
activité
moi, j'ai l'impression qu'en étant acteur ou réalisateur, j'ai l'impression d'avoir choisi ma vie.
Oui, bien
tu
sûr.
Vois ce que je veux
et
dire
après, t'as été prêt à y consacrer du travail.
Ouais.
Mais est-ce que t'es pas le plus nul et le plus tir au flanc si tu fais une activité que tu n'aimes pas ?
Ah oui, c'est clair.
Ça, c'est
clair, c'est clair.
Il y a une vraie philosophie de vie dans ce film aussi. D'ailleurs, Jean-Pascal, vous incarnez Bouna. A priori, c'était le plus calme des deux, celui qui vraiment avait toujours cet esprit positif, qui remettait, c'était un sage. Je voudrais juste qu'on cite quelques adages, au moins un. Faut bien bouffer la glace avant le cornet. Est-ce qu'on peut avoir une explication?
J'ai l'impression que c'est des phrases qu'il lance comme ça pour faire le mec qui rassure, mais lui-même, il sait pas totalement ce que ça veut dire. Et que, en vrai, n'importe quelle phrase que tu lances, ça peut être un adage. Par exemple, si je dis, il y en a un que j'aime bien, c'est un proverbe ivoirien qui dit pour rêver faut dormir, mais pour réaliser son rêve faut se réveiller. Bon bah voilà, donc tu vois, tout peut être un adage. Et donc là, c'est vrai que comme ils sont souvent démunis et il a besoin d'être le phare, il a besoin de guider, et bon bah il lance des adages, des trucs, faut bien bouffer la glace avant le cornet, je sais pas quoi. Bah.
C'est sa technique aussi pour compenser les doutes qui affleurent venant de l'autre part, de Jérémy, le gars que j'incarne. Et je pense, moi, ma façon de le rassurer, lui, c'est par un déploiement d'énergie, une agitation un peu vibrionnante.
Et puis de voir des choses que lui ne voit pas, d'ailleurs. Il y a un moment où vous arrêtez sur le bord d'un terrain, je vais pas tout raconter, mais où effectivement, vous avez compris que ça se passait d'abord sur le terrain, avec les petits des quartiers.
Mais il y a une complémentarité de fou, parce que Jean-Pascal, c'est le sage qui a la vision, enfin Bouna, le sage qui a la vision qui tempère pour éviter les petits aléas du quotidien et de flancher au premier coup de vent.
Et Jérémy,
c'est vraiment un recruteur de fou, mais un œil d'une précision, un œil qui se rapproche plus du laser que d'autres choses.
Et la preuve en est, c'est qu'il découvre cet enfant.
Wembanyama, qui dans la réalité, il a dû tanner Bouna pendant 2 ans pour qu'il vienne le voir jouer, parce que Bouna, il disait, non mais tranquille, c'est un petit de 12 ans.
Ah, il avait que 12 ans.
Et Jérémy, alors même qu'il avait que 12 ans et qu'il avait décelé des aptitudes extraordinaires qui pouvaient devenir tranchantes, et ben il lui disait, non, on a peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Et il lui disait à 12 ans, en voyant jouer à 12 ans, donc il avait une conviction, mais aussi une précision du regard qui était étourdissante.
Vous avez le regard aiguisé tous les deux, hein. C'est ce qu'on voit dans ce film. Il y a aussi cette importance de convaincre, et la difficulté de convaincre. Il faut aller chercher le premier, celui qui va faire partie de l'équipe, justement, parce que l'idée, c'est quand même de construire une équipe tous ensemble et de gagner. Et il y a un moment qui est, à mes yeux, le plus drôle du film, quand le coach arrive, le coach de Bouna, parce qu'il n'arrive plus à convaincre, et qu'il appelle sa mère à la rescousse.
Ah oui.
Cette scène, elle est extraordinaire. Vos mères, elles ont été toutes les deux des piliers.
Ah bah oui, non mais... Moi, la mienne, alors, quand j'ai décidé de faire du cinéma, vu que c'était vraiment pas son monde et qu'elle avait aucun référent, ils ont été tétanisés, ils ont eu peur. Donc, ils étaient pas très chauds au début. Mais après, quand ils ont vu que j'étais passionné et que c'était soit ça ou soit la mort, du coup, ils m'ont accompagné. Les premiers films que j'ai autoproduits, je me rappelle, ma mère, elle m'a fait des chèques de 400 euros pour louer la lumière, alors qu'elle avait zéro thune. Et je me sentais même coupable et tout, mais pour m'aider, elle me donnait des chèques. Et puis, surtout, là où ma mère, elle a été vraiment un pilier, en fait, c'est quand je vois le courage qu'elle avait. Ben, mon père aussi, mais parce qu'on était 9 enfants... femme de ménage, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de nous. Jamais elle se plaint. J'ai jamais entendu ma mère dire « Oh là là, c'est dur aujourd'hui, hein, vous êtes... calmez-vous les enfants !» Jamais. Et donc du coup, je crois que intrinsèquement, j'ai été guidé par ça, par le truc de pas se plaindre, de tu vois, les galères que t'as, et bah t'assumes, tu vas au bout, tu fais ce que t'as à faire. Et puis toujours faire des blagues, ma mère, quoi qu'il arrive, elle va toujours lancer une vanne, un truc et tout. C'est elle qui est la vraie marrante en fait dans ma famille. Moi, même si mon rep, j'avoue, il est drôle aussi, mais ma mère, c'est vraiment elle qui, elle est vraiment très très drôle et tout. D'ailleurs, c'était son anniversaire il y a pas longtemps, joyeux anniversaire. Et oui, moi, ma mère, ça a été vraiment un pilier dans ce qu'elle incarne, c'est-à-dire dans cette robustesse-là, un espèce de bulldozer qui affronte les problèmes et qui se plaint jamais, et dans la joie de vivre, quoi.
Enfin, on me dit souvent, bah moi, franchement, je pense...
Vous, c'est l'énergie. Des fois, vous partez en vrille, ça vient de votre mère.
Ma mère, déjà, est très moqueuse. Elle a toujours l'œil qui frise. Donc, elle te regarde toujours avec un regard comme ça et elle a envie de te mettre un tacle, en fait. Je pense qu'elle a une envie profonde de venir te balayer et te couper l'herbe sous le pied. Mais pour moi, ma mère, au-delà d'être vraiment une personnalité trop drôle et avec qui on se tape que des fous rires et tout, qui est extraordinaire, et aussi un peu dans une forme d'instabilité psychologique qui est inspirante, parce que moi, ma mère, tiens, on te dit, c'est qui les acteurs qui t'inspirent, etc. Quoi, moi, c'est ma mère. Parce que ma mère, c'est vraiment un personnage et c'est vraiment le plus pourvoyeur de matière à s'inspirer.
Attends, moi, il y a aussi un autre truc que ma mère, elle m'a apporté. C'est que ma mère, elle se foutait de ma gueule tout le temps.
Ah bah oui.
Elle me vannait tout le temps. Elle se foutait de moi. Elle me regardait. Regarde-moi le, celui-là avec sa tête, là. Et du coup, quand j'ai eu mes premiers trucs sur Internet ou même dans la rue, que les gens, ils commençaient à me vanner, en fait, j'étais immunisé, frère. Ouais. Parce que tu pouvais pas faire plus violent que les vannes de ma mère. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a bien aidé dans ça. Mais quand t'es petit, tu comprends pas trop. Tu dis, mais tu vois, et finalement, je crois que ça m'a aidé, ça m'a renforcé, ça m'a musclé mon esprit et tout. Ouais. Mais elle était assassine avec nous, frère.
Il y a aussi le fait que, à plus de 60 ans, elle m'a dit, mais moi, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Et au final, ils sont aussi d'un soutien et tout, et aussi psychologique, mais parce que, genre, elle a le sentiment que toi, d'avoir trouvé un sens, bon, bah, elle, par procuration, elle est aussi contente si tu peux au moins te donner le sentiment d'en avoir trouvé un de sens.
Là où le film est à deux têtes, c'est que d'un côté, il y a cette histoire d'amitié où on se rend compte qu'effectivement, on peut se construire, mais d'abord à travers les autres. Et en même temps, il y a un message qui est passé aussi de se dire que si la personne a envie d'avancer, elle ne peut compter que sur elle-même. Il y a une double tête, en fait.
Oui, c'est clair. Oui, bah, c'est un peu comme dans la vie. Non, mais c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas cette passion pour le basket, bah, ils n'auraient pas pu convaincre les autres. Donc, le moteur, il est toujours personnel. Et après, tu arrives à convaincre des gens de venir avec toi. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est la force de conviction qu'ils ont eue pour recruter des joueurs alors qu'ils n'avaient rien, pour convaincre leurs femmes de les soutenir. Il y en a même une des épouses, celle de Bouna, qui fait des crédits pour les aider alors qu'ils ont zéro argent.
Et elle croit en lui tout le temps.
Ouais. Donc en fait, je pense que c'est parce qu'ils sont convaincus intimement qu'ils arrivent à convaincre les gens. S'ils n'avaient pas cette passion-là, ils n'auraient pas convaincu les autres. Mais aussi, ce qui est remarquable, je trouve, avec Jérémy et Bouna, c'est qu'au début du film, ils commencent avec des valeurs. On sent que c'est des gens bien, passionnés. Ils vivent des épreuves, des trahisons, des arnaques, des échecs. Et à la fin du film, ben, ils ont gardé leurs valeurs et ils n'ont pas changé du tout. Et je trouve que, en fait, ce film-là, c'est un peu la success story, l'attention de gens bien. Et c'est tellement rare aujourd'hui à notre époque. Aujourd'hui, quand on regarde les films, c'est souvent la mise en valeur un peu du méchant, des choses un peu négatives, de la noirceur, de plein de choses comme ça. Et là, juste, tu regardes un film, il leur en arrive des trucs pendant le film. Hein. Ils se font trahir par des joueurs et tout. Il y a moyen de porter plein de trucs et tout. Jamais ils font ça.
Mais en même temps, le film est là aussi pour remettre les choses au centre du village. Enfin, en tout cas, il y a l'église qui est au centre du village, là. Celles et ceux qui se reconnaîtront, tant pis pour eux, quoi.
Oui, mais ce qui est super, c'est que eux, ils
font... Ils n'ont pas d'aigreur.
Non, ils n'ont pas d'aigreur, mais en attendant, les choses sont dites.
Non, mais c'est leur histoire et c'est ce qui leur est arrivé. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que tu vois, même dans le film, quand tu regardes le film, quand tu vois ce que les gens leur ont fait, ben, il y a pas un moment où ils disent, vas-y, on va mettre une carotte, on va repasser, on va truc, porter plainte, machin. Pas du tout. Ils avancent.
Ils passent à autre chose, ouais.
Ils passent à autre chose, ils avancent. Et à la fin, c'est l'ascension de gars, ben, qui n'ont pas du tout changé leurs valeurs et qui y sont arrivés. Comme quoi, en fait, tu peux y arriver en restant quelqu'un de bien. Tu n'es pas obligé d'arnaquer, de carotte, de voler, de marcher sur les gens. Non. Tu peux rester. Ça met du temps, par contre, hein. Ça met 20 ans.
En fait, c'est leur mental, il est bien paramétré pour accepter l'échec et le digérer. En fait, ils ont un système digestif de l'échec qui marche à plein tube. Et un peu comme l'ont les grands sportifs, quand tu vois des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Roger Federer, tu vois que le calme qu'ils arrivent à conserver, alors même qu'ils sont dans des difficultés et poussés dans leur retranchement, paf, allez, ça tire une frappe à côté, tata, ça se replace tout de suite. Et en fait, c'est les joueurs qui, ah, vas-y, comme ça, ils vont parler, ils vont aller voir l'arbitre, machin. Et ben, ça, c'est autant d'énergie mise à profit d'une chose qui est perdue. Et donc, eux, pour réussir à conserver cette énergie, pour continuer à la mettre dans le bon sens.
Quand on parle de NBA, évidemment, ça fait parler les paillettes. On pense aux États-Unis, aux fakes, vraiment, aux gros spectacles, quoi, aux gros shows. Et en fait, ce film, il a un visage humain. C'est ça qui est assez intéressant avec cet autre adage, le bambou qui flanche est plus fort que le chêne qui résiste. Ça veut tout simplement dire que dans un monde où on doit montrer qu'on est très très fort, qu'on n'a pas de faiblesse, de temps en temps de craquer avec les bonnes personnes, c'est important aussi.
Bah, c'est trop
et,
bien.
C'est même ce qui fait leur spécificité et ce qui fait leur attrait pour les joueurs en tant qu'agents, c'est que comme ils restent à taille humaine, ils restent aussi vulnérables et que voilà, ils sont pas comme les mastodontes impersonnel, très à distance, qui gère froidement les gens. Et eux, ils le disent, c'est, ils ont un contact spécifique avec tout le monde et ils s'investissent à un niveau qui est fou avec les joueurs. Parce que, franchement, nous, on connaît pas ça dans nos activités, mais ils peuvent investir jusqu'à 1 million d'euros aujourd'hui sur un petit qui prenne à 12 ans jusqu'à le former à 18 ans. Ils vont lui mettre un coach d'explosivité, un coach de shoot, un coach de paramétrage mental pour qu'il puisse accueillir la pression que va requérir le haut niveau, qu'ils vont devoir supporter, encaisser. Et du coup, c'est vraiment un traitement sur mesure et qui est loin d'être industrialisé. Et c'est ça qui fait leur différence, c'est qu'ils sont restés bien des hommes à hauteur d'homme.
Non, mais et puis c'est surtout aussi que le roseau qui flanche, et ça, bah, je pense que c'est aujourd'hui en fait, et qu'il faut pas avoir peur de montrer ses failles, il faut pas avoir peur de craquer, et que les mecs un peu à la Chuck Norris et à la Sylvester Stallone et tout, en fait, ça, on a compris que ça sert à rien, ça. Si t'as des problèmes, parle-en. Si t'es pas bien, dis-le. Et montrer, justement, qui t'es vraiment, être honnête, eh ben, c'est ça, la vraie force. Enfin, à l'inverse de Raphaël, qui est très, très toxique, très, très, tu vois, voilà. C'est
mais
ça,
qui
quoi.
A compris que quand il ratait un panier, il fallait prendre la balle au rebond. Ça, on l'a bien compris à travers ce film. Le vrai américain nous oblige à nous demander ce qui est important pour nous. C'est quoi le bonheur, alors? C'est quoi ce moment où on considère qu'on a atteint ce qu'on voulait atteindre?
Bah moi, pour moi, en tout cas, l'épanouissement total, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est-à-dire être en accord avec qui tu es. Et quand ce que tu fais est en accord avec qui tu es, pour moi, c'est ça le bonheur. Peu importe que tu sois menuisier ou que tu sois acteur ou que tu sois footballeur ou boulanger comme mon fils, il a envie d'être. En fait, le vrai bonheur, c'est quand qui t'es est en adéquation avec ce que tu fais. Et après aussi, bon, bah, bien sûr, la tranquillité, la sérénité... Et la stabilité mentale, wow, ça aussi, c'est hyper important. Mais j'ai l'impression que le vrai bonheur...
Et retrouver Xavier Dupont de Ligonnès aussi.
Oui, ce serait pas mal. Mais moi, j'ai l'impression que le bonheur, mais c'est que ça, en fait. C'est être en alignement total. Moi, je pense que c'est ce que moi, en tout cas, la vie m'a apporté. C'est ce que j'ai cherché. Moi, j'ai toujours cherché à être moi-même tout le temps. Et le métier d'acteur et le métier de réalisateur, en fait, m'a apporté ça. Parce que j'ai pas à faire semblant. Quand je me lève le matin, j'ai pas à dire, oh, alors, salut, toi, comment ça va? À part, parfois, en interview, des fois, je suis un peu... Mais bref, en tout cas, je suis en totale adéquation avec qui je suis, ce que je fais. Et je crois que le vrai bonheur, c'est ça. C'est pas d'être connu ou d'avoir des millions ou... Quoique, c'est... Mais le vrai bonheur, je crois, c'est ça. C'est être en adéquation au travail et dans la vie privée.
Et tu sais, je pense que ce film, il nous rend vraiment heureux, mais pas un bonheur grisant et éphémère. C'est vraiment une sensation diffuse, mais je crois que c'est lié au fait qu'il est en résonance avec qui est JP, qui moi je suis... qui est Anthony, puisque Anthony, il a un parcours aussi d'entrepreneur, Anthony Marciano, le réalisateur extraordinaire.
Et c'est lui qui était au cœur de My Major Company.
Exactement, il a créé
Il a travaillé avec Max Boublil et les gamins, par exemple.
Ouais. Exactement, il a fait des films incroyables comme Play et tout ça. Et en fait, comme la trajectoire que décrit le parcours de Bouna et Jérémy, leur mentalité... Elles sont en résonance avec les nôtres, avec celles d'Anthony. Et du coup, j'ai l'impression que ce film, il contient une forme d'authenticité qui est en accord avec nous-mêmes et qui nous rend heureux. Et j'espère qu'il va perforer l'écran jusqu'à aller impacter le cœur des spectateurs.
Mais attends, moi-même, je peux rajouter quelque chose à ça. Pourquoi le film, il est hyper important? Parce qu'en fait, c'est une ode un peu au rêve et à être en accord avec ce qu'on fait. Et je trouve qu'en fait, ce film, il faut absolument le regarder ou le recommander à des gens, parce qu'on a tous autour de nous quelqu'un qui a un rêve et qui se dit « Non, mais c'est impossible, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi et tout. » Et je veux pas te manquer de respect à Bouna et Jérémy, mais si eux, ils ont réussi à faire le truc, c'est que vraiment, c'est un truc qui est à la portée vraiment des gens. Il faut juste prendre conscience qu'il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien de trop grand. Juste, essaye de trouver le bon entourage, essaye de faire en sorte de trouver ta passion, essaye de garder tes valeurs, d'aller au bout de ce que tu fais. Et moi, je pense que vraiment, ce film-là, il peut créer un déclic chez certaines personnes. C'est vraiment le film qu'il faut regarder. Si t'as un truc en toi, mais t'as jamais osé, en regardant ce film-là, tu risques d'avoir le petit déclic.
Et il y a des gens en avant-première qui nous ont dit qu'au sortir du film, il y a une fille là ce week-end qui est venue à l'avant-première, elle a dit « je suis sortie du film ». Là, elle est revenue, elle avait vu le film à Paris, elle est revenue jusqu'à Grenoble, elle est venue nous dire, je suis venu revoir ce film parce qu'il m'a fracturé le cerveau et il m'a bouleversé. Et depuis, je me suis mis au chômage et je vais me consacrer à ma passion et je vais faire quelque chose qui va remplir mon âme de la bonne substance.
Et attends, excuse-moi de te couper, tu sais que je t'adore. Mais je pense même que en fait,
je m'excuse du fait que tu.
Non, moi je m'excuse. Non, mais je pense même que le fait d'être en accord avec soi-même et d'être vraiment qui tu es et de faire vraiment ce que tu veux, je trouve que la planète ira mieux. Parce que je pense que la planète, elle est remplie quand même de beaucoup de gens qui font des choses mais qui n'ont pas envie de les faire et du coup, ils sont un petit peu aigris et du coup, leur mécanisme intellectuel, je trouve, il est un peu...
Mais il y a aussi des gens qui font ce qu'ils ont envie de faire et c'est pas forcément les bonnes choses. À l'instar de Jeffrey. Que tout le monde fasse non plus ce qu'il veut.
Non, mais oui, il faut pas...
C'est important que tout le monde fasse ce qu'il veut.
Je suis d'accord, mais...
Attention.
Jeffrey Epstein,
je parle en termes de travail, en termes d'activité. Et que vraiment, je pense que s'il y a plus de gens qui sont en accord avec eux-mêmes, je pense que la société ira quand même un peu mieux.
Ce que montre aussi ce film, c'est que beaucoup ne vont pas jusqu'à essayer de tenter de toucher du doigt leur rêve parce qu'ils ont peur de l'échec.
Ouais,
et l'échec. Et en même temps, l'échec.
Alors que c'est la meilleure façon
c'est
d'apprendre.
C'est la clé de la réussite, effectivement. Bah oui.
C'est pas qu'une façon.
Au contraire, il faut prendre le temps de grandir. D'ailleurs, c'est plein d'enseignements dans ce film avec le père de Tony Parker qui, à un moment donné, leur dit bah oui, mais vous parlez pas anglais et le but du jeu c'est que vous soyez revenez-vous et vous serez les meilleurs.
Ça va les faire progresser et aussi l'échec c'est vraiment super et c'est pas que la phrase de Mandela soit je gagne soit j'apprends, c'est j'apprends de la meilleure des façons parce que ça éprouve la passion et ça c'est comme une petite tempête de pluie qui s'abat sur le feu de notre passion. Mais si elle meurt pas, elle va s'en trouver renforcée et décuplée. Et en fait, c'est que des façons de la renforcer et de muscler un désir profond qu'il y a en nous et de le rendre vraiment chirurgical, quoi.
C'est ça, hein, Jean-Pascal.
Ah ouais, tout à fait. Non, mais l'échec,
échecs,
c'est
ça rend plus fort, quand même. Hein.
Bah oui, rater l'échec, il faut vraiment pas avoir peur. Il faut se vautrer dans l'échec parce que c'est la meilleure des façons d'apprendre. Et surtout. Si t'abandonnes après ton échec, c'est que c'était pas pour toi.
Exactement.
Ce film, c'est plein d'espoir. C'est vraiment un moment de bonheur. C'est 2h05 qu'on voit pas passer. On a envie de le revoir de nouveau. Et effectivement, ça galvanise. Merci beaucoup, Jean-Pascal Zadi. Merci
à
Raphaël Quenard d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Le rêve américain sur tous les écrans. Merci beaucoup.
Merci Élodie.